Un des matins qui suivirent celui où André m'avait dit qu'elle était obligée de rester auprès de sa mère, je faisais quelques pas avec Albertine que j'avais aperçue, élevant au bout d'un cordonnet un attribut bizarre qui la faisait ressembler à l'idolâtrie de Giotto. Il s'appelle d'ailleurs un diabolo, et est tellement tombé en désuétude que, devant le portrait d'une jeune fille en tenant un, les commentateurs de l'avenir pourront disserter comme devant telle figure allégorique de l'aréna sur ce qu'elle a dans la main. Au bout d'un moment, leur ami à l'air pauvre et dur, qui avait ricané le premier jour d'un air si méchant « Il me fait de la peine, ce pauvre vieux !» en parlant du vieux monsieur effleuré par les pieds légers d'André, vint dire à Albertine « Bonjour, je vous dérange ?» Elle avait ôté son chapeau qui la gênait, et ses cheveux, comme une variété végétale ravissante et inconnue, reposaient sur son front dans la minutieuse délicatesse de leur foliation. Albertine, peut-être irritée de l'avoir tête nue, ne répondit rien, garda un silence glacial malgré lequel l'autre resta, tenue à distance de moi par Albertine qui s'arrangeait à certains instants pour être seule avec elle, à d'autres pour marcher avec moi en la laissant derrière. Je fus obligée, pour qu'elle me présentât, de le lui demander devant l'autre. Alors, au moment où Albertine me nomma, sur la figure et dans les yeux bleus de cette jeune fille à qui j'avais trouvé un air si cruel quand elle avait dit « ce pauvre vieux, il me fait de la peine », je vis passer et briller un sourire cordial, aimant, et elle me tendit la main. Ses cheveux étaient dorés, et ne l'était pas seul, car si ses joues étaient roses et ses yeux bleus, c'était comme le ciel encore empourpré du matin où partout pointe et brille l'or. Prenant feu aussitôt, je me dis que c'était une enfant timide quand elle aimait, et que c'était pour moi, par amour pour moi, qu'elle était restée avec nous malgré les rebuffades d'Albertine, et qu'elle avait dû être heureuse de pouvoir m'avouer enfin par ce regard souriant et bon qu'elle serait aussi douce avec moi que terrible aux autres. Sans doute m'avait-elle remarqué sur la plage même, quand je ne la connaissais pas encore, et pensait-elle à moi depuis. Peut-être était-ce pour se faire admirer de moi qu'elle s'était moquée du vieux monsieur, et parce qu'elle ne parvenait pas à me connaître qu'elle avait eu les jours suivants l'air morose. De l'hôtel, je l'avais souvent aperçue le soir se promenant sur la plage. C'était probablement avec l'espoir de me rencontrer. Et maintenant, gênée par la présence d'Albertine seule autant qu'elle l'eût été par celle de toute la petite bande, elle ne s'attachait évidemment à nos pas, malgré l'attitude de plus en plus froide de son amie, que dans l'espoir de rester la dernière, de prendre rendez-vous avec moi pour un moment où elle trouverait moyen de s'échapper sans que sa famille et ses amis le sussent, et me donner rendez-vous dans un lieu sûr avant la messe ou après le golf. Il était d'autant plus difficile de la voir qu'André était mal avec elle et la détestait. « J'ai supporté longtemps sa terrible fausseté, me dit-elle, sa bassesse, les innombrables crasses qu'elle m'a faites. J'ai tout supporté à cause des autres, mais le dernier trait a tout fait déborder. » Et elle me raconta un potin qu'avait fait cette jeune fille et qui, en effet, pouvait nuire à André. Mais les paroles à moi promises par le regard de Gisèle pour le moment où Albertine nous aurait laissés ensemble ne purent m'être dites, parce qu'Albertine, obstinément placée entre nous deux, ayant continué à répondre de plus en plus brièvement, puis ayant cessé de répondre du tout aux propos de son amie, celle-ci finit par abandonner la place. Je reprochais à Albertine d'avoir été si désagréable. « Cela lui apprendra à être plus discrète. Ce n'est pas une mauvaise fille, mais elle est barbante. Elle n'a pas besoin de venir fourrer son nez partout. Pourquoi se colle-t-elle à nous sans qu'on lui demande? Il était moins sain que je l'envoie paître. D'ailleurs, je déteste qu'elle ait ses cheveux comme ça, ça donne mauvais genre. » Je regardais les joues d'Albertine pendant qu'elle me parlait, et je me demandais quel parfum, quel goût elle pouvait avoir. Ce jour-là, elle était non pas fraîche, mais lisse, d'un rose uni, violacé, crémeux, comme certaines roses qui ont un vernis de cire. J'étais passionné pour elle comme on l'est parfois pour une espèce de fleur. « Je ne l'avais pas remarqué, » lui répondis-je.
« Vous l'avez pourtant assez regardé. On aurait dit que vous vouliez faire son portrait. »
me dit-elle, sans être radoucie par le fait qu'en ce moment ce fût elle-même que je regardais tant.
« Je ne crois pourtant pas qu'elle vous plairait. Elle n'est pas flirte du tout. Vous devez aimer les jeunes filles flirtes, vous. En tout cas, elle n'aura plus l'occasion d'être collante et de se faire semer parce qu'elle repart tantôt pour Paris.
« Vos autres amies s'en vont avec elle ?»«
Non, elle seulement. Elle est miss parce qu'elle a repassé ses examens. Elle va potasser, la pauvre gosse.
Ce n'est pas gai, je vous assure. » Il peut arriver qu'on tombe sur un bon sujet. Le hasard est si grand. Ainsi, une de nos amies a eu raconté un accident auquel vous avez assisté. Ça, c'est une veine. Mais je connais une jeune fille qui a eu à traiter, et à l'écrit encore, d'Alceste ou de Philinte, qui préféreriez-vous avoir comme amie? Ce que j'aurais séché là-dessus. D'abord, en dehors de tout, ce n'est pas une question à poser à des jeunes filles. Les jeunes filles sont liées avec d'autres jeunes filles et ne sont pas censées avoir pour amis des messieurs. »
Cette phrase, en me montrant que j'avais peu de chance d'être admis dans la petite bande, me fit trembler. « Mais en tout cas, même si la question était posée à des jeunes gens, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse trouver à dire là-dessus ? Plusieurs familles ont écrit aux Gaulois pour se plaindre de la difficulté de questions pareilles. Le plus fort est que dans un recueil des meilleurs devoirs d'élèves couronnés, le sujet a été traité deux fois d'une façon absolument opposée. Tout dépend de l'examinateur. L'un voulait qu'on dise que Philinte était un homme du monde, flatteur et fourbe. L'autre qu'on ne pouvait pas refuser son admiration à Alceste, mais qu'il était par trop acariâtre et que comme ami il fallait lui préférer Philinte. Comment voulez-vous que les malheureux élèves s'y reconnaissent quand les professeurs ne sont pas d'accord entre eux ? Et encore, ce n'est rien. Chaque année, ça devient plus difficile. Gisèle ne pourrait s'en tirer qu'avec un bon coup de piston.
Je rentrai à l'hôtel. Ma grand-mère n'y était pas, je l'attendis longtemps. Enfin, quand elle rentra, je la suppliai de me laisser aller faire dans des conditions inespérées une excursion qui durerait peut-être 48 heures. Je déjeunai avec elle, commandai une voiture et me fis conduire à la gare. Gisèle ne serait pas étonnée de m'y voir. Une fois que nous aurions changé à Doncières dans le train de Paris, il y avait un wagon-couloir où, tandis que Miss sommeillerait, je pourrais emmener Gisèle dans des coins obscurs, prendre rendez-vous avec elle pour ma rentrée à Paris, que je tâcherais de rapprocher le plus possible. Selon la volonté qu'elle m'exprimerait, je l'accompagnerais jusqu'à Caen ou jusqu'à Évreux et reprendrais le train suivant. Tout de même, qu'eût-elle pensé si elle avait su que j'avais hésité longtemps entre elle et ses amis, que tout autant que d'elle j'avais voulu être amoureux d'Albertine, de la jeune fille aux yeux clairs et de Rosemonde. J'en éprouvais des remords, maintenant qu'un amour réciproque allait m'unir à Gisèle. J'aurais pu, du reste, lui assurer très véridiquement qu'Albertine ne me plaisait plus. Je l'avais vue ce matin s'éloigner en me tournant presque le dos pour parler à Gisèle. Sur sa tête inclinée d'un air boudeur, ses cheveux qu'elle avait derrière différents et plus noirs encore, luisaient comme si elle venait de sortir de l'eau. J'avais pensé à une poule mouillée, et ses cheveux m'avaient fait incarner en Albertine une autre âme que jusque-là, la figure violette et le regard mystérieux. Ses cheveux luisants derrière sa tête, c'est tout ce que j'avais pu apercevoir d'elle pendant un moment, et c'est cela seulement que je continuais à voir. Notre mémoire ressemble à ces magasins qui, à leur devanture, exposent d'une certaine personne une fois une photographie, une fois une autre, et d'habitude la plus récente reste quelque temps seule en vue. Tandis que le cocher pressait son cheval, j'écoutais les paroles de reconnaissance et de tendresse que Gisèle me disait, toutes nées de son bon sourire et de sa main tendue. C'est que dans les périodes de ma vie où je n'étais pas amoureux et où je désirais de l'être, je ne portais pas seulement en moi un idéal physique de beauté, qu'on a vu que je reconnaissais de loin dans chaque passante assez éloignée pour que ses traits confus ne s'opposassent pas à cette identification,
mais encore le fantôme moral, toujours prêt à être incarné, de la femme qui allait être éprise de moi, me donner la réplique dans la comédie amoureuse que j'avais tout écrite dans ma tête depuis mon enfance, et que toute jeune fille aimable me semblait avoir la même envie de jouer, pourvu qu'elle eût aussi un peu le physique de l'emploi. De cette pièce, quelle que fût la nouvelle étoile que j'appelais à créer ou à reprendre le rôle, le scénario, les péripéties, le texte même gardaient une forme ne varietur. Quelques jours plus tard, malgré le peu d'empressement qu'Albertine avait mis à nous présenter, je connaissais toute la petite bande du premier jour, restée au complet à Balbec, sauf Gisèle qu'à cause d'un arrêt prolongé devant la barrière de la gare et un changement dans l'horaire, je n'avais pu rejoindre au train, partie 5 minutes avant mon arrivée et à laquelle d'ailleurs je ne pensais plus. Et en plus, 2 ou 3 de leurs amis qu'à ma demande elles me firent connaître. Et ainsi, l'espoir du plaisir que je trouverais avec une jeune fille nouvelle venant d'une autre jeune fille par qui je l'avais connue, la plus récente était alors comme une de ces variétés de roses qu'on obtient grâce à une rose d'une autre espèce. Et remontant de corolle en corolle dans cette chaîne de fleurs, le plaisir d'en connaître une différente me faisait retourner vers celle à qui je la devais, avec une reconnaissance mêlée d'autant de désir que mon espoir nouveau. Bientôt, je passais toutes mes journées avec ces jeunes filles. Hélas, dans la fleur la plus fraîche, on peut distinguer les points imperceptibles qui, pour l'esprit averti, dessinent déjà ce qui sera, par la dessiccation ou la fructification des chairs aujourd'hui en fleur, la forme immuable et déjà prédestinée de la graine. On suit avec délice un nez pareil à une vaguelette qui enfle délicieusement une eau matinale et qui semble immobile, dessinable parce que la mer est tellement calme qu'on ne perçoit pas la marée. Les visages humains ne semblent pas changer au moment qu'on les regarde parce que la révolution qu'ils accomplissent est trop lente pour que nous l'apercevions. Mais il suffisait de voir à côté de ces jeunes filles leur mère ou leur tante pour mesurer les distances que, sous l'attraction interne d'un type généralement affreux, ces traits auraient traversées dans moins de 30 ans, jusqu'à l'heure du déclin des regards, jusqu'à celle où le visage, passé tout entier au-dessous de l'horizon, ne reçoit plus de lumière. Je savais que, aussi profond, aussi inéluctable que le patriotisme juif ou l'atavisme chrétien chez ceux qui se croient le plus libérés de leur race, habitait sous la rose inflorescence d'Albertine, de Rosemonde, d'André, inconnue à elle-même, tenue en réserve pour les circonstances, un gros nez, une bouche proéminente, un embonpoint qui étonnerait mais était en réalité dans la coulisse, prêt à entrer en scène, imprévu, fatal, tout comme tel dreyfusisme, tel cléricalisme, tel héroïsme national et féodal soudainement issu à l'appel des circonstances d'une nature antérieure à l'individu lui-même par laquelle il pense, vit, évolue, se fortifie ou meurt sans qu'il puisse la distinguer des mobiles particuliers qu'il prend pour elle. Même mentalement, nous dépendons des lois naturelles beaucoup plus que nous ne croyons et notre esprit possède d'avance, comme certains cryptogames, comme tel graminée, les particularités que nous croyons choisir. Mais nous ne saisissons que les idées secondes sans percevoir la cause première, race juive, famille française, etc., qui les produisait nécessairement et que nous manifestons au moment voulu. Et peut-être alors que les unes nous paraissent le résultat d'une délibération, les autres d'une imprudence dans notre hygiène, tenons-nous de notre famille, comme les papillonacées la forme de leurs graines, aussi bien les idées dont nous vivons que la maladie dont nous mourrons. Comme sur un plan où les fleurs mûrissent à des époques différentes, je les avais vues en de vieilles dames sur cette plage de Balbec, ces dures graines, ces mous tubercules que mes amis seraient un jour. Mais qu'importait? En ce moment, c'était la saison des fleurs. Aussi, quand Madame de Villeparisis m'invitait à une promenade, Je cherchais une excuse pour n'être pas libre. Je ne fis de visite à Elstir que celle où mes nouvelles amies m'accompagnèrent. Je ne pus même pas trouver un après-midi pour aller à Doncières voir Saint-Loup, comme je lui avais promis. Les réunions mondaines, les conversations sérieuses, voire une amicale causerie, si elles avaient pris la place de mes sorties avec ces jeunes filles, m'eussent fait le même effet que si, à l'heure du déjeuner, on nous emmenait non pas à manger, mais regarder un album. Les hommes, les jeunes gens, les femmes vieilles ou mûres avec qui nous croyons nous plaire, ne sont portés pour nous que sur une plane et inconsistante superficie, parce que nous ne prenons conscience d'eux que par la perception visuelle réduite à elle-même. Mais c'est comme déléguées des autres sens qu'elles se dirigent vers les jeunes filles. Ils vont chercher l'une derrière l'autre les diverses qualités odorantes, tactiles, savoureuses, qu'ils goûtent ainsi même sans le secours des mains et des lèvres. Et, capables, grâce aux arts de transposition, au génie de synthèse où excelle le désir, de restituer sous la couleur des joues, de la poitrine, l'attouchement, la dégustation, les contacts interdits, ils donnent à ces filles la même consistance mielleuse qu'ils font quand ils butinent dans une roseraie ou dans une vigne dont ils mangent des yeux les grappes. S'il pleuvait, bien que le mauvais temps n'effrayât pas Albertine, qu'on voyait parfois dans son caoutchouc filer en bicyclette sous les averses, nous passions la journée dans le casino où il m'eût paru ces jours-là impossible de ne pas aller. J'avais le plus grand mépris pour les demoiselles d'Ambrezac qui n'y étaient jamais entrées. Et j'aidais volontiers mes amis à jouer de mauvais tours aux professeurs de danse. Nous subissions généralement quelques admonestations du tenancier ou des employés usurpant un pouvoir directorial parce que mes amis... Même André, qu'à cause de cela j'avais cru le premier jour une créature si dionysiaque et qui était au contraire frêle, intellectuelle et, cette année-là, fort souffrante, mais qui obéissait malgré cela moins à l'état de sa santé qu'au génie de cet âge qui emporte tout et confond dans la gaieté les malades et les vigoureux, ne pouvait pas aller du vestibule à la salle des fêtes sans prendre leur élan, sauter par-dessus toutes les chaises, revenir sur une glissade en gardant leur équilibre par un gracieux mouvement de bras, en chantant, mêlant tous les arts, dans cette première jeunesse, à la façon de ces poètes des anciens âges, pour qui les genres ne sont pas encore séparés, et qui mêlent dans un poème épique les préceptes agricoles aux enseignements théologiques. Cet André, qui m'avait paru la plus froide le premier jour, était infiniment plus délicate, plus affectueuse, plus fine qu'Albertine, à qui elle montrait une tendresse caressante et douce de grande sœur. Elle venait au casino s'asseoir à côté de moi et savait, au contraire d'Albertine, refuser un tour de valse ou même, si j'étais fatiguée, renoncer à aller au casino pour venir à l'hôtel. Elle exprimait son amitié pour moi, pour Albertine, avec des nuances qui prouvaient la plus délicieuse intelligence des choses du cœur, laquelle était peut-être due en partie à son état maladif. Elle avait toujours un sourire gai pour excuser l'enfantillage d'Albertine, qui exprimait avec une violence naïve la tentation irrésistible qu'offraient pour elle des parties de plaisir auxquelles elle ne savait pas, comme André, préférer résolument de causer avec moi. Quand l'heure d'aller à un goûter donné au golf approchait, si nous étions tous ensemble à ce moment-là, elle se préparait, puis, venant à André, « Eh bien, André, qu'est-ce que tu attends pour venir? Tu sais que nous allons goûter au golf. » « Non, je reste à causer avec lui, » répondait André en me désignant. « Mais tu sais que Madame Durieux t'a invité, » s'écriait Albertine, comme si l'intention d'André de rester avec moi ne pouvait s'expliquer que par l'ignorance où elle devait être qu'elle avait été invitée. « Voyons, ma petite, ne sois pas tellement idiote, » répondait André. Albertine n'insistait pas, de peur qu'on lui proposât de rester aussi. Elle secouait la tête. « Fais à ton idée, » répondait-elle. « Comme on dit à un malade qui, par plaisir, se tue à petit feu. Moi, je me trotte, car je crois que ta montre retarde. » Et elle prenait ses jambes à son cou. « Elle est charmante, mais inouïe. disait André en enveloppant son ami d'un sourire qui la caressait et la jugeait à la fois. Si, en ce goût du divertissement, Albertine avait quelque chose de la Gilberte des premiers temps, c'est qu'une certaine ressemblance existe, tout en évoluant, entre les femmes que nous aimons successivement. Ressemblance qui tient à la fixité de notre tempérament, parce que c'est lui qui les choisit, éliminant toutes celles qui ne nous seraient pas à la fois opposées et complémentaires, c'est-à-dire propres à satisfaire nos sens et à faire souffrir notre cœur. Elles sont, ces femmes, un produit de notre tempérament, une image, une projection renversée, un négatif de notre sensibilité. De sorte qu'un romancier pourrait, au cours de la vie de son héros, peindre exactement semblable ses successives amours, et donner par là l'impression non de s'imiter lui-même, mais de créer, puisqu'il y a moins de force dans une innovation artificielle que dans une répétition destinée à suggérer une vérité neuve. Encore devrait-il noter, dans le caractère de l'amoureux, un indice de variation qui s'accuse au fur et à mesure qu'on arrive dans de nouvelles régions, sous d'autres latitudes de la vie. Et peut-être exprimerait-il encore une vérité de plus si, peignant pour ses autres personnages de caractère, il s'abstenait d'en donner aucun à la femme aimée. Nous connaissons le caractère des indifférents. Comment pourrions-nous saisir celui d'un être qui se confond avec notre vie? Que bientôt nous ne séparons plus de nous-mêmes, sur les mobiles duquel nous ne cessons de faire d'anxieuses hypothèses perpétuellement remaniées. S'élançant au-delà de l'intelligence, notre curiosité de la femme que nous aimons dépasse dans sa course le caractère de cette femme. Nous pourrions nous y arrêter que sans doute nous ne le voudrions pas. L'objet de notre inquiète investigation est plus essentiel que ces particularités de caractère, pareils à ces petits losanges d'épiderme dont les combinaisons variées font l'originalité fleurie de la chair. Notre radiation intuitive les traverse, et les images qu'elles nous rapportent ne sont point celles d'un visage particulier, mais représentent la morne et douloureuse universalité d'un squelette. Comme André était extrêmement riche, Albertine pauvre et orpheline, André, avec une grande générosité, la faisait profiter de son luxe. Quant à ses sentiments pour Gisèle, ils n'étaient pas tout à fait ceux que j'avais cru. On eut en effet bientôt des nouvelles de l'étudiante, et quand Albertine montra la lettre qu'elle en avait reçue, lettre destinée par Gisèle à donner des nouvelles de son voyage et de son arrivée à la petite bande, en s'excusant sur sa paresse de ne pas écrire encore aux autres, je fus surpris d'entendre André, que je croyais brouillé à mort avec elle, dire « Je lui écrirai demain, parce que si j'attends sa lettre d'abord, je peux attendre longtemps. Elle est si négligente. » Et se tournant vers moi, elle ajouta « Vous ne la trouveriez pas très remarquable, évidemment, mais c'est une si brave fille. Et puis, j'ai vraiment une grande affection pour elle. » Je conclus que les brouilles d'André ne duraient pas longtemps. Sauf ces jours de pluie, comme nous devions aller en bicyclette sur la falaise ou dans la campagne, une heure d'avance, je cherchais à me faire beau et gémissais si Françoise n'avait pas bien préparé mes affaires. Or, même à Paris, elle redressait fièrement et rageusement sa taille que l'âge commençait à courber, pour peu qu'on la trouvât en faute, elle humble, modeste et charmante quand son amour-propre était flatté. Comme il était le grand ressort de sa vie, la satisfaction et la bonne humeur de Françoise étaient en proportion directe de la difficulté des choses qu'on lui demandait. Celle qu'elle avait à faire à Balbec était si aisée qu'elle montrait presque toujours un mécontentement qui était soudain centuplé et auquel s'alliait une ironique expression d'orgueil quand je me plaignais, au moment d'aller retrouver mes amis, que mon chapeau ne fût pas brossé ou mes cravates en ordre. Elle, qui pouvait se donner tant de peine sans trouver pour cela qu'elle eût rien fait, à la simple observation qu'un veston n'était pas à sa place, non seulement elle vantait avec quel soin elle l'avait renfermé plutôt que non pas le laisser à la poussière, mais, prononçant un éloge en règle de ses travaux, déplorait que ce ne fût guère des vacances qu'elle prenait à Balbec, qu'on ne trouverait pas une seconde personne comme elle pour mener une telle vie.
Je ne comprends pas comment qu'on peut laisser ces affaires comme ça. Et allez-y voir si une autre saurait se retrouver dans ce pêle-mêle. Le diable lui-même y perdrait son latin.
Ou bien elle se contentait de prendre un visage de reine, me lançant des regards enflammés, et gardait un silence rompu aussitôt qu'elle avait fermé la porte et s'était engagée dans le couloir. Il retentissait alors de propos que je devinais injurieux, mais qui restaient aussi indistincts que ceux des personnages qui débitent leurs premières paroles derrière le portant avant d'être entrés en scène. D'ailleurs, quand je me préparais ainsi à partir avec mes amis, même si rien ne manquait et si Françoise était de bonne humeur, elle se montrait tout de même insupportable, car, se servant de plaisanterie que dans mon besoin de parler de ces jeunes filles je lui avais faite sur elle, elle prenait un air de me révéler ce que j'aurais mieux su qu'elle si cela avait été exact, mais ce qui ne l'était pas, car Françoise avait mal compris. Elle avait, comme tout le monde, son caractère propre, qui, chez une personne, ne ressemble jamais à une voie droite, mais nous étonne de ces détours singuliers et inévitables dont les autres ne s'aperçoivent pas et par où il nous est pénible d'avoir à passer. Chaque fois que j'arrivais au point « chapeau pas en place », nom d'André ou d'Albertine, j'étais obligée par Françoise de m'engager dans des chemins détournés et absurdes qui me retardaient beaucoup. Il en était de même quand je faisais préparer des sandwichs au Chester et à la salade, et acheter des tartes que je mangerais à l'heure du goûter sur la falaise avec ces jeunes filles, et qu'elles auraient bien pu payer à tour de rôle si elles n'avaient été aussi intéressées, déclarait Françoise, au secours de qui venait alors tout un atavisme de rapacité, de vulgarité provinciale, et pour laquelle on eût dit que l'âme divisée de la défunte Lali s'était incarnée, plus gracieusement qu'en Saint-Éloi, dans les corps charmants de mes amis de la petite bande. J'entendais ces accusations avec la rage de me sentir butée à un des endroits à partir desquels le chemin rustique et familier, qu'était le caractère de Françoise, devenait impraticable, pas pour longtemps heureusement. Puis, le veston retrouvé et les sandwiches prêts, j'allais chercher Albertine, André, Rosemonde, d'autres parfois, et à pied ou en bicyclette, nous partions.